bien des incompréhensions et des tensions qui confrontent les gestionnaires d'espaces protégés et les militants de la protection de la nature, d'une part, aux agriculteurs, mais aussi aux chasseurs, aux éleveurs, et je dirais de façon générale aux gens du lieu, tiennent à ce qu'ils conçoivent différemment le monde dans lequel ils vivent. Les gestionnaires et les militants vivent dans un monde qu'ils organisent par l'opposition entre nature et artifice, alors que les gens du lieu structurent leur propre monde en distinguant le sauvage du domestique. Cette différence est à la source de nombreux malentendus, dans la mesure où la nature des uns est le sauvage des autres, alors que le domestique des gens du lieu est conçu par les autres comme le résultat d'une artificialisation. Si les gestionnaires et les militants opposent la nature à l'artifice, alors là aussi les choses se compliquent, c'est qu'ils ne sont pas tous d'accord sur ce que cela signifie. Pour les uns, que je qualifierais de naturalistes purs, il y a artificialisation dès qu'il y a une intervention ou une intention humaine. Pour ces naturalistes purs, la nature n'est en fait authentique que sans la présence de l'homme. Quant au domaine de l'artifice, il comprend à la fois les objets techniques et les infrastructures dont s'entourent les sociétés humaines, mais aussi tous les objets naturels et les milieux qui ont été instrumentalisés. Les prairies pâturées, les champs cultivés, les forêts soumises à quelques pratiques sylvicoles, et même pour certains d'entre eux, les espaces naturels protégés dès l'instant où ils sont gérés et contrôlés. Hein? Donc, vous voyez, alors ça, pour dire ce point de vue extrême, c'est quand même très souvent des gens qui sont restés fidèles à l'écologie des années 50. Hein? Selon d'autres que je... les gestionnaires de la biodiversité, la nature et l'artifice constituent deux pôles entre lesquels se situent pratiquement tous les objets et tous les milieux qui nous environnent. Il n'y a pas deux domaines distincts, mais un continuum selon différents degrés d'artificialisation. Le vivant entouré de milieux qui sont des productions conjointes des activités humaines et des processus naturels. Plus les activités humaines auront respecté les processus naturels, plus on sera du côté naturel, moins elles l'auront respecté, plus on sera du côté artificiel. Néanmoins, naturalistes purs et gestionnaires de la biodiversité ont quand même en commun qu'ils valorisent la nature et le naturel. De leur côté, lorsqu'ils structurent le monde par la distinction du sauvage et du domestique, les gens du lieu savent fort bien que les domaines ne sont pas séparés. Entre sauvage et domestique, il y a toujours eu dans les deux sens des passeurs de frontières. Animaux sauvages apprivoisés, ou animaux domestiques ayant marronné, charrés, cochons grillés, chiens errants, etc. Ceux qui structurent ainsi leur monde, en sauvage et domestique, ne dévalorisent pas le sauvage en soi. Les chasseurs, les pêcheurs, les cueilleurs eurent vous-même une véritable passion. Que des gens valorisent une nature sauvage ne les scandalise donc pas a priori. Mais il n'apprécie le sauvage que lorsqu'il reste à sa place, lorsqu'il n'interfère pas avec l'espace domestique, lorsqu'il ne nuit ni aux récoltes, ni au bétail, que ce soit par la concurrence, par la prédation ou par la transmission de maladies. Alors justement, dans un contexte de déprise agricole, les frontières du sauvage et du domestique deviennent de plus en plus poreuses et de plus en plus floues. Pire, les campagnes sont sauvages, surtout en montagne, parce qu'elles s'enfrichent, que les bouquetins protégés viennent brouter dans les luzernes, que chevreuils et sangliers occasionnent des dégâts aux cultures ou nuisent à la régénération des forêts, parce que les loups, à la suite des chiens errants, font des ravages dans l'arc alpin. Tout concourt à brouiller les catégories. Un sanglier égrené par les chasseurs est-il sauvage ou domestique, ou les deux à la fois? Et toutes les manipulations d'espèces animales réalisées par les gestionnaires et les protecteurs de la nature vont dans le même sens. Gypaètes barbus, vautours fauves, bouquetins et ours, les animaux réintroduits, souvent nourris partiellement, comme les vautours fauves, munis d'émetteurs de GPS ou de balises Argos, surveillés en permanence par les gestionnaires, sont-ils des animaux sauvages? En tout cas, s'ils sont des animaux sauvages, l'état de nature est un état policier. Où sont-ils les où est-ce que c'est les animaux domestiques de leurs protecteurs? La valorisation de la nature comme l'intérêt porté aux grands ungulés ou aux grands prédateurs sont souvent perçus par les gens du lieu comme la valorisation d'un sauvage qui ne se tient plus à sa place, qui serait bien s'il restait à sa place, mais qui ne se tient plus à sa place. Quant à la dévalorisation du domestique et à son assimilation à un pur artifice, elle est aussi incompréhensible pour les ruraux. À leurs yeux, les champs, les prés, les forêts sont naturels, et les animaux domestiques sont aussi des êtres naturels. On s'y dit mal au nom de quoi leur seraient systématiquement proférés les espaces et les espèces sauvages. On peut ainsi considérer qu'à terme, des compromis pourraient fort bien se dégager, certains l'ont déjà été à l'occasion de Natura 2000, des contrats territoriaux d'exploitation, etc., entre populations locales et gestionnaires de la biodiversité. En particulier au sujet de la lutte contre la fermeture des paysages. On peut en voir aussi le témoignage, dans le succès qu'a remporté cette année le concours des prairies fleuries, initié par la Fédération des parcs naturels régionaux, soutenu par le Parc national de France. Succès d'autant plus important que là, j'y reviendrai peut-être dans le courant de la discussion, c'est que là, en échangé, il n'y a plus de cahier des charges. On évalue sur les résultats. Et ça, c'est quelque chose qui serait très, très important, au fond, de dire, si on fait des mesures en faveur de la biodiversité, on explique en gros ce qu'il faudrait faire, on en discute, on voit ce que les gens peuvent faire, et puis on vérifie au bout de 3, 4 ans ou 5 ans, si ça a marché, c'est très bien, à ce moment-là, il y aurait une aide. Mais au lieu de faire des cahiers des charges ou des DOCOM, je ne sais pas si vous avez vu des DOCOM de Natura 2000, c'est une véritable thèse, c'est absolument illisible.